C'est parti.
Elle s'appelle Aurélia et elle est française.
Elle s'appelle Federica et elle est italienne.
Elle est née en France, elle est partie à Paris pour ses études, elle est allée à Moscou pour un échange universitaire et en stage. Elle s'apprête d'ici quelques semaines à s'envoler pour Montréal.
Elle est née en Italie, elle est partie en Russie pour ses études, puis en France pour un stage, en Arménie, et la voici de nouveau à Paris. Mais après...
Bienvenue à tous dans « Amartien dans la ville », le podcast qui fait les liens entre la ville et les îles. Et oui, vous avez bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir les histoires des gens qui ont fui leur terre pour vivre l'exil et comment ont-ils reconstruit une nouvelle vie dans un espace urbain qui ne leur appartient pas ou pas encore. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. Nicolas, je l'ai rencontré chez Georges, un bar à vin près des Mabillons, peuplé d'étudiants étrangers qui veulent faire la fête au rythme de vieilles chansons françaises. Mon amie Apolline me l'avait présenté à mes 10 ans. Lui, c'est Nicolas. Il est moitié italien. En réalité, à lui parlant, j'ai découvert qu'il avait beaucoup plus de facettes que ce à quoi je m'attendais. D'un coup, j'avais pensé qu'il allait être l'invité parfait pour notre petit martien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Nicolas.
Bonsoir. Bonjour.
Pardon. Non, mais...
Je ne sais plus l'heure qu'il est déjà.
Je t'ai dit tout de suite, il est presque 15h.
D'accord, bon, voilà. Super.
Et j'ai allumé le micro parce qu'on avait déjà spoilé beaucoup de choses. Et du coup, j'avais envie que tu allais partager tout ce que tu m'avais déjà dit aussi avec nos auditeurs. Et la première question est toute simple, c'est d'où vient tout, Nicolas?
Ah, c'est une question, c'est une vaste question. D'où je viens? Alors, en fait, finalement, moi, je viens de d'abord de Paris, puisque je suis né à Paris et je suis donc français. Mais mon père est italien. Il est, lui, pour le coup, né en Afrique. Ma mère, elle est française, mais elle est née en Algérie. Et okay. En fait, c'est une, elle est pieds noirs, comme beaucoup de Français qui sont venus après la guerre. Et je viens aussi d'une famille, qui est marquée par la religion juive, puisque mes deux parents sont juifs. Et donc, en fait, d'où je viens, c'est un peu la question que je me pose depuis tout petit. Et la réponse que j'ai réussi à donner, c'est je viens de la Méditerranée.
Voilà. D'accord. Et c'est super intéressant, et d'autant plus que maintenant la Méditerranée c'est une vraie question. Donc tu te sens aussi un peu lié à ces flux migratoires
dont
on entend parler.
Totalement, totalement. En fait, c'est un espace qui est pour moi même plus connu et plus proche que l'Europe du Nord. Okay. Je connais beaucoup mieux les contours de la Méditerranée, que ce soit l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, les Balkans, que je ne connais la Scandinavie, qui pourtant fait partie de l'Europe. Et donc, en fait, moi, non seulement ça me parle, cette question des gens qui traversent la Méditerranée pour venir en Europe, parce que c'est ce qu'une partie de ma famille a fait. Et puis surtout, je pense que j'ai plus en commun, finalement, avec un Grec et avec un Libanais que je peux avoir en commun avec un Écossais. C'est assez bizarre. Ou même avec quelqu'un qui vit dans le nord de la France.
Non, mais c'est tout à fait compréhensible, parce que ces cultures ont fait partie de ton enfance, déjà.
Totalement, ouais, totalement. Non, c'est vrai que moi, je n'ai pas été habitué à la cuisine au beurre, par exemple. Moi, j'ai été habitué à la cuisine à l'huile.
J'ai envie de dire qu'on a eu de la chance.
Ouais, exactement. Non, moi, j'ai été... c'est vrai, moi, j'ai été élevé... Dans un milieu qui était très méditerranéen et puis très oriental aussi quand même, parce que j'ai une partie de mon héritage qui est aussi un peu arabe, que ce soit par mes grands-parents qui, comme je te disais, venaient d'Algérie, et donc qui étaient juifs séfarades, et aussi du côté de mes grands-parents paternels, donc ceux qui sont italiens, parce qu'eux-mêmes venaient d'Égypte. Donc c'est vrai que c'est un mélange un peu compliqué, mais...
Chers auditeurs, si vous vous êtes perdus, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Mais ok, je dessinais un petit arbre généalogique.
Oui, c'est vrai, il faudrait.
Bon épisode.
Ouais.
Est-ce que j'ai envie de creuser un peu sur le fait qu'une partie de ta famille est juive, parce que on en a justement discuté un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait de naître juif et comment est-ce que tu penses que ça a marqué aussi ton identité?
Ouais, non, c'est une très bonne question en fait. Je pense que c'est une question que se posent beaucoup de juifs au bout d'un moment parce qu'on se demande ce que ça veut dire être juif et être né dans une famille juive. Pour moi, c'est avant tout une culture et des traditions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment décorréler la religion de la tradition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont juifs parce qu'ils croient en Dieu, enfin dans un Dieu, et ils suivent à la lettre la Torah, qui est la Bible, on va dire, pour les juifs. Ça, c'est une partie qui est tout à fait légitime d'ailleurs, qui peut penser ça. Mais il y a toute une partie des juifs, et j'en fais partie, qui sont pas forcément religieux, qui croient pas forcément en Dieu, mais qui sentent qu'ils appartiennent à une partie de la population un peu spécifique. Ils ont une histoire en commun, ils ont un passé en commun. Ils se rappellent quand on fait les fêtes d'événements, comme par exemple, bah là, il y a quelques jours, c'était la fête de Pourim. Donc c'est une fête. Oups. C'est une fête un peu spéciale. C'est en fait, on se souvient. Alors c'était il y a des milliers d'années, enfin des centaines d'années. C'était donc à l'époque de l'Empire perse. Et en fait, c'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Esther qui a réussi à convaincre le roi de Perse à cette époque-là d'épargner en fait les Juifs qui allaient être massacrés parce que considérés comme différents, considérés comme justement ne suivant pas les règles communes, on va dire, aux autres populations vivant dans l'Empire perse. Et donc cette fête-là, c'est une fête religieuse, mais c'est aussi comme si on racontait une histoire, en fait. Et c'est plein de traditions comme ça que moi j'ai réussi à garder en moi. Et en fait, pour moi, être juif, c'est ça, c'est aussi partager cette histoire et ces traditions.
Je vais anticiper quelque chose aussi sur l'ordre des questions que j'avais prévues. Je sais que tu es allé pendant quelques mois en Israël. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, totalement. En fait, pour plusieurs raisons, j'ai voulu aller là-bas parce que c'est un pays qui me fascinait, mais aussi parce que, voilà, dans le cadre de ma construction politique, j'avais envie de me faire une idée de ce qui se passait là-bas. On entend énormément parler du conflit israélo-palestinien, et j'avais envie d'aller en Israël et en Palestine pour voir de mes yeux ce qui se passait. Et pour apprendre aussi l'hébreu et l'arabe, parce que voilà, je baragouinais quelques mots d'hébreu et d'arabe de base, et j'avais vraiment envie d'apprendre ça de façon sérieuse. Et en fait, c'est très intéressant parce que Israël, c'est un pays qui justement s'est construit sur l'immigration, comme les États-Unis ou comme d'autres pays comme ça, ce qui fait qu'il y a une multitude d'origines. Tu as des Israéliens qui viennent d'Europe, enfin à la base, d'autres qui viennent du monde arabe, d'autres qui viennent d'Amérique latine, d'autres qui viennent. Et en fait, ça a fait une société très multiforme, où justement, c'est plein de cultures en une. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais bon, c'est une société qui est très dure, qui aussi est sur un modèle libéral, un peu comme aux États-Unis ou comme au Royaume-Uni. Et donc, c'est pas évident de s'en sortir. Il y a une vraie différence entre la vie à Tel Aviv, qui est le cœur économique et où la vie est vraiment très simple, très agréable. Enfin, c'est une ville hipster, gay-friendly, donc c'est très cool. Et Jérusalem, qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus
Austère.
austère, exactement, ouais. Et où, en fait, tu ressens vraiment tout le poids du conflit, la tension. Et moi, voilà, j'ai fait l'effort d'aller aussi en Palestine, donc je suis allé dans les zones occupées. Il y a des choses qui m'ont réjoui parce que c'est vrai que tu vois, bah voilà, les gens qui vivent, qui travaillent, qui vivent même en harmonie avec les Israéliens et c'est très agréable. Mais j'ai vu aussi l'occupation, j'ai vu la réalité aussi de certaines choses que sont les colonies. Et ça, c'est important parce que ça, en tant que voilà, étudiant en relations internationales, ça m'a donné une idée beaucoup plus concrète de ce que pouvait représenter ce conflit.
Bon, c'est très intéressant. Je veux retourner un moment du coup sur ta famille et sur ses origines liées à la migration. La question est, quelle langue parlais-tu quand tu étais petit alors?
Alors c'est très drôle parce que quand moi j'ai été donc enfin quand je suis né, mes parents d'ailleurs voulaient hésiter pour mon prénom parce qu'ils voulaient quelque chose qui puisse passer un peu partout justement. Et donc mon père lui avait proposé un prénom, je sais plus lequel, qui était justement passe-partout. Ma mère en avait proposé un autre et ma grand-mère, si je me souviens bien, donc paternelle, l'italienne, avait dit non, il faut l'appeler Enzo parce que voilà.
Ah oh non!
Voilà, il faut l'appeler Enzo, c'est
C'est
pas
mon
grave.
oncle!
Voilà, il faut l'appeler Enzo, ça sera très bien. Et mes parents ont regardé, ils m'ont dit, on va pas l'appeler Enzo, tu imagines? Enzo Picciotto.
Non, c'est la
Et donc,
fin.
ils ont dit, on va l'appeler Nicolas, c'est très bien, ça passe partout. Mais en fait, cette idée-là de garder l'italien était très présent. Et donc, en fait, ma mère a beaucoup insisté pour que mon père me parle en italien. Et
D'accord.
donc, je parlais tous les jours en français, mais par moments, ma mère insistait en disant, non, mais arrête le français, parle-lui italien, c'est bien. Et mon père était toujours un petit peu résigné. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu ce combat entre ces deux langues-là déjà pour savoir laquelle il fallait que je parle le mieux. Mais en fait, très bizarrement, la langue que j'ai commencé vraiment à apprendre très vite et de façon instinctive, c'était l'anglais. Parce que en voyageant beaucoup pour aller voir ma famille qui était celle qui vivait en Israël, mes grands-parents qui à un moment donné ont vécu en Afrique aussi, j'en reparlerai peut-être, tout de suite c'est l'anglais qu'on m'a appris parce qu'il fallait que je sois capable de parler toutes les langues et très facilement. Et donc j'ai vraiment grandi avec l'anglais finalement dans ma famille.
D'accord. Et l'anglais, c'était aussi à enseigner par tes parents
Oui.
ou tu l'as appris?
Non, non, mon père et ma mère, qui parlent très bien l'anglais, me l'apprenaient quand j'étais petit. Et puis ensuite, moi, je me suis mis à l'apprendre tout seul, en regardant notamment beaucoup de séries américaines. Mais voilà, je pense que j'ai finalement connu davantage l'anglais que l'italien, grâce à mes
D'accord.
parents. C'est assez bizarre, mais alors qu'ils sont pas du tout anglais ou ils n'ont pas de culture anglophone.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que tes parents étaient déjà imprégnés en fait de cette culture internationale qui, pour moi, est plutôt de notre génération. Par exemple, mes parents ne parlent pas du tout anglais et c'est moi la première avec ma sœur qui parle anglais couramment. Et alors que toi, pour moi, c'est juste un signe du fait que tes parents étaient déjà très internationaux à l'époque.
Mais totalement, et puis en plus, ça va plus loin que ça. Moi, mes parents parlaient déjà plusieurs langues. C'est-à-dire qu'en fait, mon père lui parlait le français, l'italien, l'anglais, il parlait le swahili en plus, qui est la langue donc qu'on parle dans l'Afrique de l'Est. Ma mère parlait le français, l'espagnol, elle a appris l'italien avec mon père, elle parlait l'anglais, et puis en plus, elle a appris l'hébreu au fur et à mesure. Enfin, donc en fait, j'ai vraiment grandi dans une famille très internationale finalement,
T'as baigné
mais
vraiment
complètement.
depuis le début.
Totalement. Et en plus, j'ai eu la chance d'être avec des parents qui aimaient voyager et qui m'ont fait voyager dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable et je les remercie vraiment encore aujourd'hui parce que je pense que c'est grâce à ça si aujourd'hui j'ai envie moi-même de travailler dans les relations internationales, pour le coup.
Et bah c'est fait, tu l'as dit. Ils vont, j'espère, écouter ces
Ah oui,
podcasts.
ça va leur faire plaisir, je pense.
Et je vais rebondir là-dessus parce qu'on parlait des langues et du coup j'ai envie de savoir tout de suite quelles sont les langues que tu parles aujourd'hui. Je sais que tu en as rajouté quelques-unes depuis.
Alors, les langues que je parle vraiment bien, ça va être, et je veux vraiment rester très honnête parce que je sais que voilà, il vaut mieux pas mentir. Les langues que je parle vraiment bien, ça va être le français, l'anglais et le russe. C'est-à-dire que c'est des langues que maintenant je peux parler, mais de façon complètement courante et ça, c'est naturel. Je peux réfléchir en russe, en anglais et en français sans problème. Après, j'ai vraiment aujourd'hui un niveau débutant en hébreu et en arabe, parce que j'ai commencé à apprendre les langues, je comprends à peu près, je peux me débrouiller pour parler, mais je peux pas dire honnêtement que je maîtrise ces langues-là. Et en fait, l'italien, c'est le plus bizarre, parce que c'est une langue que je peux parler, que je comprends parfaitement à l'oral, mais je suis incapable de lire et d'écrire en italien, parce que j'ai jamais appris vraiment. C'est-à-dire que je peux lire un petit peu, je peux peut-être essayer de deviner une écriture, mais c'est mon plus gros regret, c'est qu'au fond, bah c'est ma langue quasi maternelle, parce que c'est la langue de mon père et d'une partie de ma famille, mais je sais pas la parler comme un vrai Italien. Et c'est assez dur, parce que j'ai quand même la nationalité italienne, j'ai déjà voté en Italie, et au fond, une fois ça m'est arrivé, c'était très bizarre, je suis arrivé donc au consulat, Et je suis arrivé au consulat et en fait, ils m'ont dit bon, très bien, alors vous voulez vous inscrire sur les listes électorales? J'ai dit oui. Ils disent, mais pourquoi vous me parlez en français? Vous êtes italien. Et j'ai dit oui, mais je ne pourrais pas vous dire liste électorale en italien, en fait, je ne sais pas comment on dit. Et il m'a regardé, le mec, en se disant
Lista elettorale.
voilà. Et il m'a dit, mais vous êtes italien ou pas? J'ai dit, bah oui, mais je ne parle pas assez bien. Et c'était mon moment de honte, un petit peu.
Je pense que c'est juste parce que t'as pas, je sais pas, t'as fait beaucoup de voyages en Italie?
Oui, beaucoup, surtout parce qu'en fait, maintenant, une partie de ma famille vit dans le sud, à Lipari. Je ne sais pas si tu vois, du coup, dans les îles éoliennes. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup de voyages là-bas, mais en fait, c'était beaucoup de small talk. Et puis, je
Ouais,
parlais,
small talk.
tu vois, voilà,
Ça
de.
empêche en fait d'aller en profondeur.
Bah, totalement. Et
T'as l'impression que tu
puis.
connais, mais en fait, c'est pas
Tu répètes
assez.
toujours les mêmes choses. En fait,
Ouais.
c'est toujours les mêmes phrases. C'est toujours, je veux ci, je veux manger ça, merci, s'il vous plaît. Quelle heure il est? Non, s'il vous plaît, rendez-moi la monnaie.
Ouais.
Voilà. Non,
C'est
c'est vrai.
monument russe.
Non, mais c'est vrai, c'est un peu dommage. Mais c'est mon seul regret.
Bah écoute, si tu veux, je te conseille quelques auteurs, parce que peut-être c'est que t'as pas connu la littérature italienne qui t'a donné envie de
Totalement.
lire en Italie, en italien.
Totalement. Totalement, je pense déjà. Et puis moi, j'ai plus été habitué aux chansons italiennes qu'à la littérature italienne, pour le coup. Et puis
Ouais.
ça, c'est dommage.
Ouais. Bah moi, je suis tombée amoureuse de la littérature quand je connaissais rien d'autre que la littérature italienne. Donc je pense que qu'il y a des choses à lire. Et ok, on en a déjà parlé un petit peu, mais quels sont les voyages qui t'ont le plus marqué? Donc tu peux parler de ce que tu as fait quand tu étais tout petit, mais aussi des derniers échanges que tu as fait avec l'université, tout ce que tu veux.
Oui, alors, parmi les voyages qui m'ont le plus marqué, je pense que les premiers et les plus importants sont ceux que j'ai faits en Tanzanie, donc en Afrique de l'Est, parce que c'est une chance incroyable que j'ai eue de faire une partie de ma jeunesse là-bas. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance incroyable de voir un pays qui était complètement inconnu pour la plupart des Français. De pouvoir rencontrer des gens extraordinaires qui vivaient là-bas, qui travaillaient là-bas, et puis surtout de faire des voyages là-bas. C'est-à-dire que bon, c'est extrêmement privilégié, je le sais, j'en suis conscient. J'ai eu la chance de faire des safaris, de voir des animaux qui sont d'habitude dans des zoos ici en Europe. Et en fait, c'est des souvenirs de dingue parce que j'ai le souvenir notamment d'un voyage incroyable. J'étais un peu plus vieux, je devais avoir peut-être 11 ans ou 12 ans. On était parti longer la côte pour aller à la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, à Mtwara. Et c'était un voyage, mais complètement bordélique. C'est-à-dire qu'il y avait une météo terrible. Donc il y avait les routes qui s'étaient complètement affaissées. Il y avait des sillons de boue. On a dû dormir dans des coins complètement paumés, à même le sol. C'était l'aventure. Et en fait, mon père me disait, à ce moment-là, tu vas voir, un jour, quand tu seras plus grand, tu seras tellement content d'avoir vécu ça parce que ça va te faire des super souvenirs. Et il a raison parce qu'aujourd'hui, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et je pense que l'Afrique, ça, c'est un voyage permanent, en fait, que j'aimerais pouvoir continuer à faire parce que c'est quelque chose de dépaysant, mais surtout, c'est énormément d'humilité. Parce que bah, tu te rends compte à quel point on a de la chance d'être en Europe et de vivre dans des conditions assez privilégiées. Et puis, je pense que le deuxième voyage qui m'a le plus marqué, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la Russie. Parce que j'ai décidé de prendre à contre-pied toute ma famille, qui sont méditerranéens. Je leur ai dit non, moi je veux aller dans le froid, à l'est. Et donc en fait, bah, j'ai fait du russe depuis des années et j'ai fait plusieurs voyages là-bas. Et les plus incroyables étaient ceux que j'ai faits quand j'étais à Moscou, parce que j'ai vécu pendant 6 mois d'abord en tant qu'étudiant à l'université MGU, donc l'université Lomonossov.
Bien sûr.
Et là, bah, j'ai pu avoir une vie extraordinaire, rencontrer des gens mais fantastiques. J'ai vraiment fait des progrès en russe aussi,
Enfin.
enfin, après des années. Et puis même là, l'année dernière, je suis parti 6 mois travailler à l'ambassade de France à Moscou. Et pareil, j'ai rencontré des gens incroyables. Et la Russie, si tu veux, c'est pour moi un des pays les plus incroyables. Et je dis souvent incroyable, peut-être à tort, mais là, je le pense vraiment. Parce que c'est paradoxal. Pour moi, la Russie, c'est un pays qui est tellement proche, culturellement, géographiquement, mais en même temps tellement éloigné dans les mentalités que, Au fond, je me rends compte à quel point en France et de manière générale en Europe, on ne connaît pas assez la Russie. Et c'est dommage parce que c'est un pays qui est très proche et qui, pour plein de raisons, pose des problèmes aussi. Mais si les gens faisaient l'effort d'aller là-bas et de connaître un peu la culture russe, je pense que ça aiderait beaucoup dans la communication. Parce que c'est une autre façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours entendu dire que les Russes étaient très extrêmes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, non, je suis d'accord. Il y a énormément d'a priori qui empêchent la compréhension de la culture russe. Si t'aimes la Russie, c'est forcément parce que t'es pro-Poutine et que t'es nationaliste.
Voilà, et c'est un peu un raccourci dommage, alors que tu peux faire la part des choses, ce que j'essaie de faire, et apprécier ce pays pour ce que c'est, pour son histoire, pour sa culture, tout en étant capable de prendre de la distance avec avec la politique. Et donc vraiment, voilà, mon voyage et mes voyages en Russie m'ont énormément marqué. Et tu sais, tu as même quasiment un sentiment de tristesse quand tu pars de Russie. Enfin, moi, à chaque fois que je pars et je reviens en France, c'est un déchirement même. C'est vrai.
Et ben je suis d'accord. Je pense que quand tu es en Russie, il y a une atmosphère très particulière par laquelle tu es entouré et tu as aussi l'impression que c'est un peu tout possible. On en discutait tout à l'heure du fait que les Russes ont cette capacité de rebondir vite, peut-être justement parce qu'il n'y a pas tellement de structures comme ici en France. Et du coup, ils se désespèrent pas tout de suite. Et
Non, ouais.
ils essayent tout de suite de trouver une solution. Et en fait, c'est une réalité dans laquelle tu peux vraiment essayer de créer quelque chose. Et rien n'est pas impossible. Je sais pas ce que tu en penses.
En fait, c'est ça, je suis assez d'accord avec toi, c'est ce côté débrouillard, comme tu dis, et le fait que. Il y a un sentiment peut-être que tout n'est pas encore fait, qu'il y a encore tellement de choses à faire. Peut-être qu'en France, j'ai le sentiment, voilà, qu'au fond, on a déjà pratiquement accès à tout plein de services, que tout va bien. Et en fait, en Russie, c'est fou parce qu'il y a des choses qui manquent. C'est vrai, comparé à la France, bon, voilà, moi, je me souviens de l'épisode sans eau chaude quand même pendant quelques semaines. Ça marque tous ceux qui sont passés à Moscou. Et puis aussi parce que, mais d'un autre côté, tu vois, tu as plein de choses qui n'existent pas en France. Le métro, tu as du wifi dedans. Tu peux payer pratiquement tout avec ton téléphone. Tu as accès à chaque fois à tes comptes depuis ton téléphone et on t'envoie un SMS quand tu retires de l'argent. En fait, c'est pour ça que c'est très paradoxal la Russie. C'est un pays qui est extrêmement en avance sur un grand nombre de sujets et qui, pour un Français comme moi, un Européen plutôt pour dire, parce que c'est pas seulement français, c'est aussi un pays où, bah, bizarrement, il y a des choses qui avancent pas et où il faut encore travailler dessus et dans le service à la personne, par exemple, je pense.
Oui, effectivement. Je pense à beaucoup de choses, donc je n'ai pas envie de commencer à partir.
Oui, à tout lister,
Oui. Mais effectivement, c'est vrai que la personne, y a complètement un autre type d'État. En fait, je ne sais même pas d'où commencer par la liste des différences entre l'Europe, hein, et la France surtout, et la Russie. Mais je retournais au concept de base dont tu parlais. Il y a beaucoup trop d'a priori et je pense que les gens feraient bien à aller sur place et à voir avec leurs yeux ce que c'est la Russie.
Totalement, totalement. Après, c'est vrai que bon, voilà, c'est un budget, c'est un coût, et je peux comprendre que des personnes n'aient pas spécialement envie non plus d'aller dans un pays où il fait très froid.
Mais
Mais
pas
c'est
que.
important. Je pense que c'est assez important d'aller là-bas, surtout parce que voilà, la Russie, c'est un pays dont on entend énormément parler. Et j'irais même plus loin. Je parlais tout à l'heure d'Israël et de la Palestine. Je pense que pour beaucoup de personnes aussi, c'est important d'y aller, ceux qui s'intéressent à ce qui se passe, parce que tu vois aussi de tes propres yeux la réalité. Et il y a beaucoup d'a priori sur la Palestine et sur Israël, et c'est dommage, parce que il faut aller là-bas pour se faire sa propre opinion, et voilà. Mais c'est peut-être parce que toi et moi, on a tous les deux la bougeotte, on aime bien voyager, et on a envie de voyager, et on a envie de voir de nos propres yeux ce qui se passe dans le monde. Peut-être que les gens ne sont pas tous comme ça.
Ouais, non, mais je pense de plus en plus quand même. Et du coup, la Russie, peut-être qu'il y a des gens qui vont bien aller passer des vacances quelque part, mais ils vont pas en Russie parce qu'il y a beaucoup trop de médias négatifs là-dessus. J'ai envie de dire non, allez-y. Et c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de beauté à
Totalement,
avoir.
ouais, totalement.
Ok. Donc, j'ai vu que tu as parlé de ces voyages qui sont les plus marquants pour toi. Donc, d'un côté l'Afrique et de l'autre côté la Russie, que tu as fait un peu plus tard. Comment est-ce qu'ils ont marqué ton regard sur la France une fois que tu es rentré?
Ah ouais, bah en fait comme je te disais, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est quand j'étais petit, je m'en rendais pas forcément compte, mais déjà j'avais une petite idée. En rentrant notamment de Tanzanie, j'essayais de faire preuve quand même d'une certaine, enfin je voyais une certaine forme de privilège quand même que j'avais en tant que Français, en tant que Parisien. C'est-à-dire que c'est pas cliché, je pense, de se rendre compte. Quand tu voyages dans des pays qui, de fait, ont des, voilà, ont un niveau de richesse inférieur à celui dans lequel tu vis, c'est pas cliché de se dire, waouh, en fait, j'ai de la chance. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, non, mais ça va, on va pas se flageller. C'est pas se flageller, je pense que c'est important de se rappeler à quel point, on est privilégié par moment. Et c'est pas pour dire que c'est mal, c'est pour apprécier ça. Et donc moi, c'est le sentiment que j'ai eu depuis tout petit quand même, en revenant à chaque fois en France, mais pas que d'ailleurs depuis la Tanzanie, en faisant d'autres voyages, que bah waouh, j'avais beaucoup de chance d'être en France, que j'avais la chance d'être dans un pays où je pouvais bah, m'exprimer librement, où je pouvais faire mes études de façon très peu onéreuse, où je pouvais choisir mon rêve de carrière aussi. Et donc ça, c'est une certaine forme de reconnaissance aussi que j'avais en revenant en France, à ces voyages, pendant ces voyages-là. Mais quand je suis parti en Russie, que je suis revenu, c'était un autre sentiment. Là, pour le coup, j'avoue que j'étais peut-être un peu triste, ouais, parce que en revenant en France, j'avais le sentiment que les choses étaient beaucoup plus cloisonnées qu'en Russie, que je pouvais faire moins de choses. Il y a des choses assez bêtes, mais par exemple, voilà, à Moscou, tout particulièrement, les magasins sont ouverts, tu sais, 24 heures sur 24, 7 jours sur
Je me
7.
souviens de quand on faisait soirée et après on se disait, ah tiens, on
On
va
va
faire les
aller,
courses.
voilà, on va faire les courses, c'est pas grave, il est 5 heures du matin, mais c'est ouvert. T'auras
Allez.
forcément un magasin ouvert. Et en fait, ça paraît idiot, mais au
Mais j'avoue
fond,
que je me sentais un peu coupable parce que je me disais, pour cette envie de faire les courses à 5h du mat, il y a quelqu'un qui travaille.
voilà, c'est vrai. Mais d'un autre côté,
Voilà.
tu sais que c'est voilà, quelqu'un qui travaille, qui gagne de l'argent, et c'est cool.
Ouais, aussi, ouais.
Mais c'est juste qu'en fait, je pense que c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de dire. Et en fait, en rentrant en France, bah, je me suis senti plus limité. J'avais l'impression, et c'est ce que tu disais, les choses étaient moins possibles, moins claires. Et en fait,
Plus facile, mais juste parce qu'il y avait une structure, mais après, plus facile, mais t'avais des limites.
voilà, c'est ça. Et en fait, c'est peut-être ce qui est très attrayant. Quand tu voyages à l'étranger et pas forcément dans ces pays-là que j'ai cités, c'est que tu te sens beaucoup plus libre, quoi qu'il arrive. Tu as l'impression que tout est à faire, tout est à explorer. Et même d'ailleurs, je vais être très honnête, je pense aussi dans ton rapport de séduction aux autres, que ce soit quand tu te fais des amis ou quand tu veux plus que des amis, tu as l'impression en étant à l'étranger que c'est plus simple. Et c'est moi le sentiment que j'ai. Je me suis beaucoup plus facilement lié à des personnes quand j'étais en Russie ou quand à un moment donné, je suis parti au Royaume-Uni étudier pendant 2 mois. Je me suis fait beaucoup plus rapidement des amis et puis j'ai eu beaucoup plus rapidement des histoires de cœur qu'en France. Parce que tu te sens plus léger, plus libre, et tu as l'impression que c'est plus facile. C'est peut-être pas vrai, mais c'est un sentiment en tout cas que je garde en tête et que je pense beaucoup de personnes doivent partager quand même. Parce que on a tous nos amis de l'étranger, des gens qu'on a rencontrés comme ça en échange universitaire ou pendant un stage, et on est très proche d'eux, alors qu'on vit à des kilomètres ou on vit même pas forcément dans le même pays, mais tu gardes cette expérience très forte au fond de toi, je pense.
Oui, sans doute. Ça fait partie de ces sentiments de l'estranéité que moi aussi j'aime beaucoup, de dépaysement, d'apaisement,
Des paysans, ouais.
que moi aussi j'aime bien. Et c'est aussi pour ça que j'adore être en France, même si c'est pas la même chose, c'est pas si exotique. Mais j'aime bien en fait être un peu étrangère et prendre toujours un peu la distance de tout ce qui se passe.
Totalement. Ouais, c'est assez agréable de se mettre un peu de temps en temps en disant et je vais te dire même, tu vois, voilà, mon père par exemple, c'est une anecdote, mais mon père, ça fait des années qu'il est en France. Il aurait pu être français depuis le temps. Très souvent, je parlais de ça avec lui, et lui me disait, mais non, moi je suis très content d'être italien, parce que j'ai pas à me mouiller. Moi j'ai le droit par moment de dire, ça me regarde pas, c'est votre problème, moi je me permets d'avoir un regard étranger. Et je lui en voulais beaucoup, et puis finalement, quand je suis moi-même parti à l'étranger, j'ai compris pourquoi il faisait ça, c'est parce que c'est un sentiment d'être pas forcément toujours sur le même plan de réflexion que les autres. Et c'est une forme de pouvoir aussi, je pense. Alors, c'est pas pour manipuler ou quoi que ce soit, hein, c'est pas un pouvoir négatif, c'est juste que ça te permet de flotter un petit peu et c'est très agréable.
Ouais, c'est très agréable, je confirme. Alors que quand je suis en Italie et je me dis, en fait, là, j'ai pas d'excuses, je suis pas d'accord, mais j'arrive pas à prendre la distance. Et ouais, je regarde les choses de trop proche, trop près, et parfois c'est un peu. Ben voilà, c'est désagréable et c'est pour ça que je veux garder ces sentiments de dépaysement. Je sais pas l'exprimer mieux, mais ouais, c'est quelque chose que je recherche à chaque fois. Et voilà, même si après, quand je me dis on me donne de l'italienne, ça me fait plaisir, mais je sais très bien que c'est pas vraiment cette identité qui me décrit le plus. Je me sens. Enfin. C'est assez compliqué. Je suis contente de poser les questions et pas de devoir y répondre.
Ah, mais peut-être que tu y répondras toi-même un jour, hein, il faut. Mais je pense que ce que tu dis est très vrai et ça fait, c'est les gens qui voyagent peut-être qui se posent ces questions-là. C'est au bout d'un moment, qui suis-je? C'est quoi mon identité? Est-ce que je suis juste français? Est-ce que je suis italien?
Est-ce que je suis italienne parce que je suis née là-bas, voilà, et que j'ai fait mes études, même ça. Si je suis pas du tout d'accord avec la culture dominante de mon pays?
Non, mais c'est une très bonne question. C'est pour ça que moi-même, c'est un, tu vois, mon rapport à la France et à Paris est un peu compliqué parce que, au fond, je suis né là-bas, j'ai fait mes études là-bas, j'ai grandi là-bas, mais j'ai tellement vu d'autres choses à côté que je ne peux pas juste me sentir français.
Ouais. Et pourtant.
Et pourtant, j'ai envie d'être français. Ouais. Plus français que les Français.
Exactement. Parce que tu me disais que t'es le premier à être les premiers français né en France.
Ouais, le premier vrai français, le premier entre guillemets vrai français, enfin avoir être né, resté avec mon frère, j'ai un petit frère, on est les on va dire qu'on est des produits finis. C'est-à-dire comparé à ma mère et à mon père qui eux ont vécu en France mais qui ont eu une partie de leur vie aussi voilà à l'étranger ou du moins qui ont été rattrapés par leur culture vraiment très dominante étrangère. Mon frère et moi, on a baigné vraiment dans cette culture française. Et puis surtout, moi, je sais que à ce niveau-là, j'ai une certaine différence avec le reste de ma famille, qui eux sont beaucoup plus internationalisés, même d'ailleurs, et qui n'ont pas ce même rapport à la France. Et moi, je suis vraiment très attaché à ce pays-là, alors que mes grands-parents, notamment, n'ont pas le même lien.
Ouais. Et tu me disais justement que tu avais ces sentiments de vouloir restituer quelque chose à la France.
Oui, ouais, non, ça c'est quelque chose de vraiment très important et que j'ai mis du temps à comprendre parce que je me suis posé beaucoup de questions quand j'étais jeune pour savoir quelle était mon origine, d'où je venais, qui j'étais. Et un jour, je me suis fait la réflexion en me disant, ben, qu'importe, au fond, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que j'ai eu énormément de chance de grandir dans ce pays-là et j'ai envie de faire quelque chose pour ce même pays. Et ça explique pourquoi aujourd'hui j'ai envie de devenir diplomate, parce que c'est mon projet professionnel. Ça explique pourquoi je me suis engagé dans la réserve militaire aussi et que je porte l'uniforme pour la France et je me sente français. Mais c'est quelque chose à la fois qui est lié au fait que je suis reconnaissant et dans un certain sens, je vais être très honnête aussi parce que j'ai toujours peur qu'on me dise « Ah, mais est-ce que t'es vraiment français ?» Parce que regarde ton nom de famille, regarde tes origines. Ouais. Et c'est peut-être à tort, là, c'est la mauvaise raison. La bonne raison, c'est parce que je suis reconnaissant. Et la mauvaise raison, c'est parce que j'ai envie peut-être de faire plus français que les Français. En disant « Bah voilà, moi non seulement je fais l'armée, mais en plus je vais servir l'État. Donc tu peux pas dire que je suis pas français, tu vois. Ouais. Tu peux pas me reprocher ça. »
Absolument, c'est une manière de mettre les mains avant. Je ne sais pas s'il y a un français, il y a cette expression.
C'est de prendre le devant, prendre les devants, d'essayer de les prendre à contre-pied, tu vois. C'est vraiment de prévenir toute remarque qui pourrait me retirer aussi cette appartenance à la France, parce que c'est quelque chose qui existe, le fait que tout simplement aujourd'hui, tu as beau être né en France, si tu as des origines étrangères et si voilà, tu n'es pas, comme on dit, un Français de souche, on peut par moment te faire une remarque, même si c'est juste pour rigoler, même si c'est juste voilà, ça peut blesser quand même. Et et dans un pays où aujourd'hui l'identité pose encore problème, où on a un rapport à l'autre et aux migrants par exemple, qui soient économiques ou qui se soient, que ce soit des réfugiés politiques, je veux pas dévier, mais c'est juste que par moment on a le sentiment, quand on n'est pas un Français de souche, de devoir se justifier, et c'est peut-être dommage.
Mais du coup, si tu as ces besoins de te justifier, c'est peut-être parce que tu as déjà subi des discriminations quand tu étais plus petit, ou c'est...
Oui, mais enfin, ça a été, heureusement, ça n'a jamais été au point où je me suis retrouvé ostracisé, mis de côté, tu vois, par les autres. Mais oui, forcément.
Mais tu l'as ressenti quand
même. Ah, complètement, oui. Moi, par mon nom de famille, j'avais pu subir des moqueries. Mais bon, ça, à la limite, les enfants sont cruels. Moi, c'est surtout un élément, tu vois, qui va te faire rire. Mais c'est pendant la Coupe du Monde là, de 2006. Ah, okay. Là, vraiment, j'ai trouvé ça abusé parce que moi, j'étais pas spécialement footeux. Tu vois, je m'en fichais un petit peu. J'étais content que l'Italie gagne, mais sans plus. Mais mon père et moi, alors mon frère, il a eu de la chance visiblement lui, mais mon père et moi, on a vraiment ressenti une violence. C'est-à-dire que les gens, quasiment pouvait m'insulter en me disant que j'étais de toute façon un tricheur d'italien, que mon pays c'était un pays de voleurs, et j'étais choqué. Ouais. Et vraiment, ça...
Mais comment est-ce qu'il t'est arrivé ça, dans la rue
Non, autour de moi, de mes amis qui, du jour au lendemain, ont commencé pour certains... certains à se moquer gentiment, et j'étais là, bon d'accord, c'est gentil. Mais d'autres gens, quand ils savaient que j'étais italien, ils n'hésitaient pas à me balancer une pique comme ça, et c'était violent. Et ça, ouais, c'était un peu discriminant quand même. Et ça m'a, j'ai trouvé ça dommage parce que, je veux dire, j'étais pour rien, tu vois. C'est pas de ma faute s'il y a eu la Coupe du Monde telle quelle. C'est pas de ma faute si Zidane a mis un coup de boule. Et ça, heureusement, c'est la seule forme de violence que j'ai vraiment, vraiment vécue. Après, bon, il y a eu d'autres histoires qui, ça, sont liées plus à ma religion, mais j'en parlerai pas là parce que voilà, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, non, fort heureusement, contrairement à d'autres gens que je connais qui ont été beaucoup plus discriminés en raison de leurs origines, moi j'ai eu de la chance. En fait, finalement, quand tu es italien, je trouve, quand tu es immigré italien vraiment, donc ici en France, tu fais partie de cette génération un peu déjà intégrée. Les Français disent bon. Vous avez déjà eu votre période au début du XXe siècle où vous étiez étranger. Maintenant, finalement, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est la troisième, quatrième, cinquième génération, tu vois, d'immigrés qui viennent aujourd'hui, du Moyen-Orient ou qui viennent d'Afrique. Et eux vivent beaucoup plus de discrimination et sont beaucoup plus soumis à ça, je pense.
Oui, c'est certain. C'est plutôt de la discrimination light, on va dire, un peu dans les regards, juste dans les petites remarques.
Et puis dans les clichés, évidemment.
Oui,
c'est-à-dire que moi, on pense tout de suite que je suis un séducteur macho italien, alors que bon, pas du tout. On pense tout de suite aussi que je parle avec les mains, que je suis, que je parle fort. Bon, ça, c'est vrai que je parle fort.
C'est une qualité aussi.
C'est une qualité, c'est important. Voilà, c'est plein de clichés. C'est vrai que mais bon, au fond, c'est quasiment rentré maintenant dans les codes que j'ai avec les gens, tu vois, dans mon interaction. C'est « Ah, tu es italien ? Ah bon, alors, forcément, voilà, tu vas nous faire une pizza ce soir ?» Je dis « Ah bon, non, pas forcément. Non, moi, en plus, je sais pas faire la pizza. » Mais c'est pas grave, voilà. Tant que ça reste à ce niveau-là, je pense que ça fait partie de l'exotisme que les gens trouvent fascinant. Ouais. Et je pense que les Italiens et tout le monde, enfin voilà, il n'y a pas que les Italiens, tout le monde subit ça un petit peu et c'est pas si grave que ça.
Non, c'est mais quand ça aide les autres, trouve, à parler, à briser un peu la glace.
Complètement, voilà, c'est ça.
Il faut le voir comme ça, ouais.
Totalement. Et je me dis, demain, je vois un Français à l'étranger... Peut-être que j'aurais tendance, moi, si j'étais de ce pays, du pays étranger, à dire alors, tu nous rapportes une baguette ou quoi que ce soit. Ouais. Je sais pas, peut-être. On me l'a jamais faite encore, mais peut-être qu'un jour on me dira, quand j'irai en Russie, alors la baguette, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, heureusement, c'est pas de vraie discrimination.
Ouais. Ben, en fait, c'est que les Français ont quand même Je pense que vous avez quand même la chance d'avoir des clichés positifs, dans le sens où la France est le pays de l'amour, Paris c'est la ville la plus belle au monde, de la bonne bouffe.
Non, c'est vrai.
Il n'y a pas beaucoup de clichés.
Bah, les clichés, c'est la réalité. C'est le fait que les Français sont
Très snob.
très snob et qu'on est, qu'est dans nos pays frontaliers, et tu sais, duquel je parle, notamment, voilà, par moments, les Français sont sentis comme étant un peu supérieurs. Et c'est pas
Ouais,
faux.
alors, si je pense ces clichés que j'ai intériorisés quand j'habitais en Italie, enfin, du coup, quand j'étais chez
Voilà.
moi, vous pouvez
Ah
puer.
oui, c'est vrai, ouais,
Ouais,
on se
il y
lave
a
pas.
ça
C'est vrai qu'il y a
aussi.
ça, les Françaises se lavent pas, les Françaises ne se rasent pas,
Ouais,
voilà.
c'est ça,
Il y a beaucoup d'images comme ça. Mais bon, au fond, quand on commence à discuter, après, les clichés partent, hein. C'est comme quand moi j'avais des clichés sur les Russes, sur le fait qu'ils buvaient tous forcément de la vodka, ou qu'ils étaient très, très, comment dire, bruts de décoffrage, tu vois. Bon, en réalité, quand tu vas là-bas, tu vois les Russes et tu vois que c'est absolument pas vrai, et que c'est juste plein d'individus différents. Mais ça, c'est le voyage qui te permet, je pense, de déconstruire ces clichés-là. Et c'est pour ça, je pense que toi-même, ces clichés que tu avais sur les Français, tu les as un peu cassés en rencontrant des vrais Français et en allant en France, non?
Oui, bien
T'as
sûr. Après,
pas l'air convaincu.
attends, on a déjà discuté. Alors, je pense que j'ai eu la chance de connaître plein de Français sympas. Et après, je me suis aussi rendu compte d'une culture de base qui n'est pas forcément, enfin, qui est un peu trop, enfin, stricte aussi, qui est un peu ce dont j'ai entendu parler. Donc, je pense qu'il y a que les stéréotypes dont on parlait, ils existent quelque part, mais il y a beaucoup plus. Je pense qu'il y a quelque chose de cette manière d'être français, un peu snob. Il y a ça, mais il y a surtout de l'élite. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi des Français qui ne supportent pas ça, qui sont un peu insouffrants de cette côté français. En fait, une culture n'est pas juste uniforme. Il y a toujours il y a un périmètre, et il y a des parties qui sont d'un côté et d'autres qui sont exactement à l'opposé.
Non, non, c'est très juste. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ce que tu viens de dire est même très, très. Enfin, ça peut être une belle définition d'une culture de société. C'est de dire vraiment, c'est voilà, multiforme. C'est un périmètre. C'est pas juste un élément. C'est plein de choses qui composent ça. Et être français aujourd'hui, c'est par moments remplir les clichés, et c'est par moments complètement les démentir. Être français, c'est aussi voilà. Parler la langue, connaître l'histoire, mais c'est aussi tout simplement aimer ce pays. Et au fond, c'est un peu pour ça que moi j'ai tendance à me définir, comme je t'ai dit au début de la discussion, comme méditerranéen, parce que au fond, c'est ce qui me définit le mieux, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis, c'est ce que je vis, et c'est ce qui me permet d'être aussi en lien avec tout plein de personnes et de partager cette culture-là avec d'autres gens. Ça veut dire que quand je vais rencontrer un Grec, et je lui dis, voilà, je suis français. Il va me dire, ah, t'es français. Bon, ben, on n'a peut-être pas forcément la même vision du monde. Je lui dis, non, non, je suis français, mais je me définis en tant que méditerranéen. Et crois-moi que ce que tu vis, comment tu vois les choses, ton rapport à la mer, ton rapport à la nourriture, à ta façon d'interagir avec les gens, je me sens aussi proche de toi que si tu étais français.
C'est ça
Parce
en
que,
fait la
voilà.
culture, c'est pas juste la bouffe en tant que telle, c'est vraiment le rapport à
C'est
la
ça.
nourriture.
C'est les habitudes. C'est le fait de se dire, par exemple, on va se faire après manger une sieste. Bon, bah ça, oui, c'est dans les mœurs. C'est bien. C'est le fait de boire un alcool qui est un peu commun partout. Tu vois, par exemple, tu as l'ouzo, l'arak au Liban. Voilà, c'est des alcools qu'on connaît. Le pastis, c'est des choses qui sont communes à tous ces peuples qui traversent la Méditerranée. Il y a parce qu'il y a plein d'échanges. Et ça fait des siècles qu'il y a des échanges. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties pour comprendre cette société méditerranéenne. Et au fond, il faut pas, je pense, voir l'Europe comme un tout fermé, en disant, bah voilà, il y a nous les Européens qui sommes de tradition judéo-chrétienne, et il y a ensuite l'Afrique, l'Asie, voilà. Non, il y a des espaces interconnectés, comme par exemple
Absolument.
la Méditerranée, comme aussi voilà, l'Europe orientale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les Allemands ont beaucoup en commun aussi avec les Russes, et que ce soit dans le vocabulaire, dans les traditions, dans l'amour de la patate, par exemple, voilà, si je puis dire. Et donc, en fait, voilà, moi, c'est grâce à mes études et aussi à mes voyages que je me rends compte qu'on n'est pas tant dans des blocs que dans des espaces interconnectés.
Ouais, bah, je peux pas être plus d'accord. Je pense qu'en fait, les politiciens nationalistes qui sont en train de parler d'un bloc européen sont juste en train de reconstruire une histoire de la manière qui leur est plus utile,
Bien sûr.
en fait. Je voulais aussi te demander, dans tes multiples voyages, où est-ce que tu t'es senti le plus chez toi?
Alors, c'est une bonne question. Et je pourrais pas vraiment te répondre parce que j'ai beau avoir réfléchi à cette question un petit peu. Je pense que je ne me suis jamais réellement senti chez moi. J'ai pas un lieu, et je prends Paris aussi, pourtant j'y suis né. J'ai pas un lieu dans ma tête où je me suis dit, ah voilà, c'est chez moi. Je pense que je dois encore le déterminer. Ça veut dire que je l'ai pas, voilà, je l'ai pas trouvé. Soit je n'aurai jamais vraiment de chez moi, parce que au fond, je sais que j'ai cette bougeotte en moi, que j'aime voyager et que j'aime découvrir des endroits qui me sont chers, mais je me sentirai pas non plus, comment dire. Même Paris, qui est une ville que je connais très bien, je me sens pas chez moi. Par moments, et on m'a déjà fait la réflexion, je me comporte comme un touriste ici à Paris.
Ah
Alors
ouais?
que ça fait des années que je vis là, mais parce que je n'ai pas une attache particulière de racine. Au fond, je pense que le chez moi, c'est une région. Je me sens chez moi, comme je te l'ai dit, en Méditerranée, par exemple.
Ouais. Peut-être que j'ai réfléchi, parce que je réfléchis en même temps aussi à moi, à ce que serait ma réponse. Et effectivement, je me retrouve très bien dans ce que tu dis. Moi non plus, je sens vraiment d'avoir un chez moi. Mais je me dis, c'est peut-être parce qu'on a eu la possibilité de bouger à chaque fois.
Totalement.
Et si on était peut-être, si on nous empêchait de retourner là où on est né, peut-être que là, ça deviendrait alors chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Si on n'avait pas la possibilité d'y retourner, et si ça devenait un lieu impossible, intouchable, si ça devenait, voilà.
En fait, si demain on devait me supprimer un lieu, au fond, j'essaie de réfléchir. Je me dis quel lieu je pourrais avoir
Si on te
justement ce.
disait, t'es interdit de rentrer en France, de revoir Paris.
Je serais triste, mais je ne pense pas que je serais. Non, mais c'est vrai, je suis très honnête, je serais très triste, mais je pourrais m'en remettre parce que. Ouais, non, je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est pas mon vrai. Pour le moment, enfin, je pense peut-être pas encore avoir trouvé mon chez moi. Voilà. Je serais très triste quand même, parce que voilà, j'aime beaucoup cette ville. Mais comme je te disais, moi, quand je reviens de voyage et que j'arrive à Paris, j'ai pas ce sentiment de dire, ah, je pose mes bagages, tu vois, je suis chez moi, ça y est. Non, c'est pas du tout le sentiment que j'ai.
Bon, j'en profite alors parce que tu viens de parler de Paris, qui est quand même une ville qui inspire beaucoup ces podcasts. Et je voulais te demander quels sont tes endroits préférés.
Alors,
Même
justement,
s'ils ne sont pas ton chez-toi, mais quand même.
non, bien sûr, non, j'ai beaucoup d'endroits préférés à Paris, donc ça va être difficile de faire le tri. Mais je pense que l'un de mes endroits préférés, c'est le quartier latin, en fait, de manière générale, parce que c'est là que j'ai fait mes études. J'ai été à la Sorbonne, et en fait, c'est aussi parce que, comme je te disais, voilà, au fond, je suis un vrai touriste. Et c'est un des coins les plus touristiques de Paris.
Justement, je voulais te dire, mais ça fait pas
Mais
un
c'est
peu trop
touriste, mais
touriste.
j'adore cet endroit. C'est un endroit où,
D'accord.
pour moi, il y a une forme de vie. Je sais pas comment dire. Voilà, c'est mon coin préféré. J'adore me balader par là. J'adore aller là-bas. Aller jusqu'à Saint-Germain, par exemple, tu vois. C'est des coins. C'est là que je sors aussi de temps en temps quand je sors le soir. Et j'aime beaucoup cet endroit. Après, je pense justement que j'ai une petite affection quand même aussi pour Maintenant, le 11e arrondissement où je vis, parce que c'est un endroit que je découvre finalement. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous les Parisiens même de voir. J'étais avant donc rive gauche, tu sais, il y a toujours une lutte permanente entre la rive gauche et la rive droite. Et donc en étant rive gauche, je m'étais dit jamais j'irai rive droite, c'est pas pour moi. Et donc maintenant voilà que j'y suis et que je vis dans le 11e arrondissement, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui devraient faire l'effort au moins de venir se balader de temps en temps de ce côté-là, parce qu'il y a des choses assez incroyables magnifique. Et assez incroyables, assez originales.
Je l'avais découvert l'année passée justement, parce qu'Aurélia, l'autre fille avec qui j'ai fait ses podcasts, y habitait. Et du coup, elle était justement pas loin d'ici. Et j'avais adoré vraiment ces quartiers.
Mais c'est super différent en fait. Et c'est ça qu'il y a de sympa à Paris, c'est que je pense que c'est une ville qu'on continue à découvrir après des années de vie. C'est-à-dire qu'il y a des coins... Où tu seras passé une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, tu verras un truc que tu n'avais jamais vu. Ouais. Parce que c'est une ville petite comparée à d'autres villes, c'est vrai, mais qui est tellement différente d'un quartier à un autre, peut-être, par moment, que c'est ultra agréable de se dire qu'aujourd'hui, mon quartier préféré, c'est le quartier latin, mon coin préféré, c'est la place de la Sorbonne, mais peut-être que dans 2, 3 ans, 10 ans, je vais te dire, non, j'ai découvert un endroit il y a 2 jours, c'est mon nouvel endroit préféré.
Oui, c'est aussi une ville qui arrive toujours à attirer des milliers de personnes qui tombent amoureux et donc qui ne sont pas forcément français et qui décident de s'installer ici et peut-être de lancer une activité commerciale.
Totalement.
Et ça change un peu l'image d'un quartier ou d'une rue, tout simplement.
Totalement.
Et alors, je voulais aussi te demander à quelle valeur souhaiterais-tu transmettre à tes enfants dans un futur de ta culture d'origine. Bon, du coup, dans ton cas, je dirais plutôt de tes cultures.
Je pense que justement, ce serait un peu ça, ce sentiment un peu multiforme de se dire que voilà, on peut être très attaché, ce qui est mon cas, voilà, au pays dans lequel on est né et qui, comme je te dis, être reconnaissant. Et je pense que j'essaierai d'enseigner ça, la reconnaissance, pour le moment, je pense rester en France, donc mes enfants, j'espère, seront français dans ce cas-là, et j'essaierai de leur inculquer cette reconnaissance vis-à-vis du pays qui les accueille, qui les nourrit, qui les forme, qui les éduque, et tous les privilèges qu'on a en France, mais aussi, évidemment, d'être dans une flexibilité au niveau de leurs origines et de leur culture, c'est-à-dire de se dire, finalement, j'ai beau être né en France, j'ai le droit de me sentir peut-être aussi italien, parce que ils seront peut-être italiens, de me sentir d'appartenance à une culture juive, de choisir de peut-être se sentir même européen, méditerranéen, et puis en fonction de leur propre histoire, de leur propre voyage, peut-être à un moment donné de tomber amoureux d'une culture et d'en épouser les traditions, peut-être demain d'aller, je ne sais pas moi par exemple en Amérique latine, de tomber sur une personne qui va les marquer au Brésil et de se sentir peut-être attiré par cette culture brésilienne, ce qui n'est pas forcément mon cas moi, mais
tu sais pas encore.
Tu sais pas, voilà, exactement. Et je connais des gens qui eux sont tombés comme ça amoureux de certaines cultures qui sont complètement différentes de leurs. Et je pense qu'il faut être très flexible. Et je pense que c'est
et
ça
c'est
que j'aimerais
l'enseigner.
C'est
pas juste de la flexibilité, c'est dont tu parles, mais c'est vraiment d'assumer et de se dire que finalement, l'identité, c'est ce qui t'en fait.
Complètement. C'est pas ce qu'on te donne, ce que tu reçois en héritage. C'est ce que tu utilises. C'est important. C'est-à-dire qu'aussi, c'est pas parce que ton père est d'une nationalité que tu dois forcément dire, oulala, c'est important que je me sente de cette nationalité-là. Ouais. C'est plutôt de dire, voilà, ça t'appartient, mais tu en fais ce que tu veux. Si tu veux te sentir de cette nationalité ou de cette origine ou de cette religion, c'est ton choix. Et il faut apprendre aussi à s'en servir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit jusqu'à présent, mais très longtemps, j'ai vu mes origines multiples, le fait que je sois pas français comme les autres, comme un poids et comme un fardeau, presque. Et en fait, ce n'est que depuis quelques temps que je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance et que c'est une richesse, mais incroyable.
Exactement.
Et au fond, maintenant, j'ai des gens qui me jalousent, qui me disent waouh, j'aurais tellement aimé être comme toi, avoir plein de trucs. Je dis, tu sais, c'est pas facile.
Il faut se décomplexer.
Mais voilà, je pense qu'il faut être capable aussi de transmettre ça à ses enfants ou à ses amis, à ses proches. faut pas oublier la ressource que c'est que d'avoir des différences. Mmh. Et même quelqu'un, par exemple, qui va te dire « Non, mais moi, je viens d'un petit village paumé dans la France, j'ai pas d'origine différente que... » Voilà. Je dis « Bah si, au fond, justement, ta différence, c'est que par rapport
tu
à quelqu'un d'autre... » Voilà,
tu,
non, mais tu as une ressource, une culture propre, qui est en plus de ta culture mainstream, si tu veux, française, que tout le monde a.
Ouais. Merci d'avoir si bien formulé ces concepts, parce que c'était vraiment à la base de notre podcast. Et c'était justement pour ça, parce qu'à un moment donné, quand j'habitais en France, du coup, je vivais très mal le fait d'être italienne. Et bon, je ne voulais pas acquérir la nationalité française, mais c'est juste que ça m'épaisait un peu le fait d'avoir un accent. Et à un moment donné, je me suis dit, mais écoute... C'est pas possible. Il faut que tu commences à avoir ça comme une richesse et pas juste comme un poids. C'est pas possible. Et du coup, c'était vraiment en ces moments que j'ai fait un saut dans ma tête et je me suis dit, en fait, la même chose, la même réalité, tu peux l'avoir soit comme un poids, comme un désavantage dont tu dois avoir honte, limite, soit comme une grande richesse. Et ouais, c'est ça aussi qu'on veut absolument communiquer avec ces podcasts. Donc, merci beaucoup de l'avoir dit.
Non, mais je t'en prie.
Et du coup, tu as mérité la dernière question, enfin. Et c'est... Non, pas encore. Désolée.
Oh, on peut...
Non, mais... Alors, la question, c'est très important, ça, parce que moi aussi, je vais te la piquer, parce que bientôt, je vais partir. Donc, je veux savoir quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui démarre une nouvelle vie dans un nouveau pays ?
En fait, c'est intéressant comme question, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux types de personnes qui partent. Il y a ceux qui choisissent de partir dans un pays, donc ils choisissent le pays où ils vont, et ceux qui n'ont pas le choix. Demain, tu peux très bien dire « je rêve d'aller m'installer ». Je sais pas, en Thaïlande. Et donc, la personne va passer, je sais pas, des mois à préparer son installation. Mmh. Il va apprendre le thaï, il va... pas forcément d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il aura choisi. Et donc, ces personnes-là, je pense que le conseil que je peux leur donner, c'est finalement de faire peut-être un peu attention à pas trop penser, justement, peut-être. Moi, c'est le défaut que j'ai eu sur la Russie.
Pas trop être dans la préparation, tu veux dire ?
En fait, pas tant ça. C'est surtout moi le défaut que j'ai eu sur la Russie quand je savais que j'allais y aller y vivre quelque temps. C'était pas non plus très longtemps, mais quelque temps. Je m'étais dit, au fond, je vais quasiment essayer à terme d'essayer de me faire passer pour un Russe. Mon objectif, c'est de devenir un Russe comme les autres. C'était ça que j'avais en tête. Et en fait, ça, c'est parce que j'étais tellement attiré par ce pays, par la culture, que je voulais faire plus russe que les Russes.
Ouais.
Or, c'est pas une bonne stratégie parce qu'au fond, c'est pas ça qui fera ton intérêt, ta richesse sur place. Au contraire, c'est très bien que tu sois intéressé par la culture du pays, que tu aies envie d'aller y vivre. Mais je pense qu'il faut toujours pas oublier que je suis pas un Russe comme les autres, je suis pas un Thaï comme les autres.
Ouais.
En revanche, pour les gens qui n'ont pas le choix. Il y en a qui partent aller dans un pays par exemple parce que leur travail leur impose d'aller dans ce pays, c'est pas forcément un pays qui les intéresse. Je pense que le conseil que j'ai à donner dans ce cas-là, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui puisse les intéresser dans ce pays, quelque chose de la culture, et je pense qu'au bout d'un moment ça se fait automatiquement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis allé en Arménie. Alors voilà, c'est un élément qu'on va encore
Là-dessus.
Voilà. Moi, je suis parti en Arménie rejoindre à l'époque ma copine. Et j'avais vraiment pas envie d'y aller. C'est un pays qui m'intéressait, mais pas du tout. Et pourtant, j'avais habité en Russie, mais justement, je me disais, c'est la banlieue de la Russie, c'est pas intéressant, je me sens absolument pas proche des Arméniens, la culture m'intéresse pas, je connaissais Aznavour et c'est tout. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur peut-être des gens là-bas qui ont été capables de me dire fais un effort, vas-y quand même, essaie de t'intéresser, balade-toi à Yerevan. Et en fait, c'est parce que j'ai fait preuve un petit peu d'ouverture d'esprit à ce moment-là que j'ai pu vraiment apprécier la culture de ce pays. J'ai été agréablement surpris parce que j'ai fait l'effort de m'intéresser à des moments, à des parcelles de la culture arménienne, que j'ai fait l'effort d'apprendre la langue,
T'es resté combien de temps ?
Je suis resté un mois et demi, à peu près, un truc comme ça.
Ouais. D'accord.
Donc c'est très peu de temps, en vrai. Mais
Tu vas me faire sentir coupable parce que moi je suis restée 6 mois et j'ai appris juste Baloutsas.
Ouais, c'est déjà pas mal. Moi j'ai tout oublié de l'arménien, mais.
Inchpesak, et c'est tout.
Voilà. Je sais plus, je crois que tu peux dire merci aussi pour dire merci, non?
Oui, mais voilà. Justement c'est ça que je disais.
Voilà.
Et pour finir, est-ce qu'il y aurait une œuvre, et ça peut être un peu tout, une chanson ou un livre que tu aimerais faire connaître de ta culture? Du coup, encore une fois, à toi de choisir laquelle.
Bah, pour un peu faire bien quand même, parce que ouais. Après tout, je suis italien et j'en suis fier.
Voilà, okay.
Je pense qu'il y a une chanson, surtout. Je te disais que moi, finalement, la culture italienne, c'était pas tant les lectures, mais la musique. Mm-hmm. Et j'ai un chanteur italien qui a bercé mon enfance parce que mes parents étaient très fans.
Ah, je suis très curieuse là.
Voilà. Alors, c'est un jazzman.
Okay.
C'est quelqu'un qui est, j'espère, toujours vivant. Ça, je pense qu'il est toujours vivant. Je touche du bois parce que j'ai un trou. Je suis pas sûr. Non, je pense qu'il est toujours vivant. C'est Paolo Conte.
Ah ouais, bien sûr.
Et en fait, ma chanson préférée, moi, c'est Via con me.
Yeah.
Et c'est une chanson mais extraordinaire. J'adore. Et si tu peux la mettre dans le podcast à un moment donné, ça me ferait très plaisir parce que je pense que c'est peu de gens connaissent quand même Paolo Conte.
Ouais.
Et c'est une très très belle chanson. Je trouve
voilà,
c'est la chanson qui moi me fait le plus sentir italien.
Ouais, en plus ça fait un peu rêver quand même.
Totalement.
Je pense que les auditeurs vont t'apprécier aussi. Bon, merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Federica.
Tu m'as pas déçu, c'était vraiment l'interview que j'espérais avoir.
Bon, bah, je suis très content alors. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de parler avec toi. Ça m'a permis de me poser des questions aussi, hein, parce que j'ai pas tout le temps l'occasion de réfléchir sur mes voyages, sur qui je suis. Et c'est très agréable. Et encore une fois, je pense que c'est bien que vous fassiez ce type de podcast à rechercher des gens un petit peu bizarres comme moi.
Ah, merci, merci.
Merci à Nicolas. Merci à lui de nous avoir partagé ses réflexions autour des multiples cultures dont il est le produit et de nous avoir rappelé que l'origine n'est qu'un point de départ dans la construction de l'identité de chacun.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Datti do di do, ci boom, ci boom boom. Datti do di do, ci boom, ci boom boom.
Pour que vous ne loupiez absolument rien de ce qu'on a dit, dans les notes de l'épisode, vous trouverez les références évoquées au cours de l'interview.
Pour ne pas rater les prochaines émissions, abonnez-vous sur votre plateforme podcast préférée. Nous sommes également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Un Martien dans la ville.
Si cet épisode vous a plu ou que vous avez envie de nous donner une suggestion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, laissez un avis 5 étoiles sur iTunes ou simplement partagez-le avec vos amis. Car, vous l'avez compris, ça nous aide vraiment beaucoup.
Les Martiens de la ville vous dit à la prochaine.
Here come the Martian Martians, and they're riding on their Martian bike. Well, we have to find out right now, what kind of ice cream do the Martians like? Well, here come the Martian Martians, why staying in such a cheap hotel? Maybe we should help out the Martians, looks like the Martians ain't doing too well. Martian time, 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 well, it's Martian rhyme time.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre Roots de Alice Merton, Here Come the Martian Martians de Jonathan Richman and the Modern Lovers et Via Con Me de Paolo Conte.